marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Le nouveau est dans le passé, ça paraît totalement paradoxal, puisqu'on a toujours imaginé que le passé était dépassé.
Le témoin de ce vendredi à Strasbourg, c'est François Reinhardt. L'histoire de la France selon lui.
La vie d'un grand pays comme la France, la descente à la mer d'un fleuve majestueux, soit. Mais tous les 200 ou 300 kilomètres, je veux dire tous les 40 à 50 ans, ce fleuve est coupé de rapides, de bancs de rochers sur quoi ses eaux se brisent. Alors, celle du fond remonte à la surface, celle de la surface plonge, la contre-réforme, la seconde renaissance s'étale à la surface jusqu'au nouveau rapide. Alors, le classicisme et le catholicisme Louis XIVien s'étaleront. Révolution, oui, de conscience et d'âme.
La voix que vous venez d'entendre, choisie à dessein à Strasbourg, c'est celle du grand Lucien Febvre. Lucien Febvre parle de l'histoire de la France comme celle d'un fleuve, ça pourrait être le Rhin, coupé de rapides qui en rendent la navigation improbable. Après la Première Guerre, Lucien Febvre a été nommé comme Marc Bloch à l'Université de Strasbourg. Il s'agissait de redonner du lustre à celle-ci après la grande période allemande qu'elle avait connue. C'était un enjeu national. Mais Febvre, comme Bloch, n'entendait pas faire de l'histoire nationaliste. Le recteur de l'époque à Strasbourg s'appelait Sébastien Charletti et ne voulait pas faire non plus de la rentrée 1919 la revanche de celle qui n'avait pas pu avoir lieu en 1871. Et il déclarait ceci. Nous serons la nation forte mais qui ne craint pas de garder les fenêtres ouvertes à tous les horizons. Et il ajoutait, nous ne servirons que la vérité, il n'y a pas de lien plus fort entre tous les hommes. Il y a plusieurs façons de faire de l'histoire, on le verra tout au long de ce festival Historia à Strasbourg. Charletti était beaucoup plus classique, moins inventif que Febvre et Bloch. C'était un disciple d'Ernest Lavis, qui avait la réputation d'être un historien positiviste en même temps qu'il était républicain. Il avait dans sa jeunesse fait l'éducation à l'histoire de la France de la jeune impératrice Eugénie. Et celle-ci, qui était un peu lassée des rapides qui coupaient le fleuve et qui troublaient sa compréhension des événements, un jour avait demandé à Lavis, mais enfin, monsieur le professeur, l'histoire de France en deux mots, s'il vous plaît. Eh bien, madame, avait-il répondu, ça s'est toujours assez mal passé. Et à Strasbourg, on est en mesure de comprendre cette vérité.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
En compagnie de François Reinhardt, bonjour.
Bonjour Jean.
D'abord, il faut que je dise une de vos qualités qui va être sensible au cœur des Alsaciens qui sont ici. Vous êtes un enfant des périphéries de la France. Enfin, vous êtes un Flamand, vous auriez pu ne pas être français.
Une qualité, n'exagérons rien, j'y suis pour rien. Je suis né à Dunkerque, effectivement. Et effectivement, quand on est à Dunkerque, me semble-t-il, on a un autre regard sur le national, le nationalisme, etc. Hein, la bataille des Dunes, 1558, le jeune Louis XIV. Dunkerque, c'était espagnol le matin. À midi, ça devient français. Et puis l'après-midi, Louis XIV est promis ça en Angleterre. Il le donne aux Anglais. Donc c'est déjà trois. Donc j'aurais pu être ces trois nationalités-là. Et j'aurais pu être belge aussi, ce qui m'aurait, voilà. Et je dois dire que les quatre m'auraient fait grand plaisir. Je suis très fier d'être français. J'aurais été tout aussi fier d'appartenir à ces trois autres pays.
Alors vous trouverez un récit de la conquête de l'Alsace par Louis XIV dans Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises, hein, ça c'est le sous-titre. C'est un livre qui est paru en livre de poche dernièrement, comme d'ailleurs vous allez faire paraître en format poche une histoire du monde. Si vous voulez, on va essayer de restreindre quand même nos ambitions. Et récemment chez Talendier, Historama. Historama, vous avez conscience que c'était le titre d'une publication concurrente d'Historia, naguère?
C'était une publication de concurrent d'Historien, c'est tout à fait vrai. Mais alors moi, ma référence, elle venait du Pergoriot, parce que dans le Pergoriot, il y a à la pension Wauquiez, les gens jouent, ils rajoutent des ramas partout. Donc, ils jouent au rama. Donc moi, je joue au rama en faisant Historama. Historama, c'est un recueil de double pages histoire que je fais toutes les semaines dans l'Obs, hein, qui s'appelle Passé Présent. L'idée, c'est d'essayer d'expliquer l'actualité à la lueur de l'histoire. Donc livre,
le recueil. Oui, il faut que je dise à ceux qui ne vous connaissent pas encore que vous êtes une tête de gondole dans les magasins pour vos livres, une tête de série pour l'Obs, puisque vous êtes souvent quasiment en ouverture du journal, juste après Jean Daniel.
Oui, enfin non, n'exagérons rien. Jean Daniel d'abord. Hein. Non, moi je me contente de faire l'histoire. Je suis un journaliste d'histoire, voilà.
Le fou du roi.
Bonjour et bienvenue. Oui, c'est l'heure du fou du roi avec nous ce matin. Frédéric Martin.
Bonjour.
Bonjour.
Julia Verne. Bonjour. François Reynard.
Et oui, vous étiez aussi dans votre jeunesse, François Reynard.
C'est une archive historique, ça fait longtemps.
Oui, nostalgie, Stéphane Bern, dans l'équipe de Stéphane Bern, mais vous faisiez pas d'histoire à l'époque.
Alors on dira que dans ma vie, il y a eu deux parties. Pendant longtemps, j'étais journaliste et j'étais dans le côté humour, d'accord, dans le côté satire, etc. Je faisais une chronique dans le Nouvel Observateur, qui était une chronique satirique. Et puis, il y a une dizaine d'années maintenant, je suis passé à autre chose. Depuis toujours, j'avais la passion de l'histoire. Et à la fin des années 2000, j'étais très déprimé de voir comment l'histoire était traitée dans le grand public. Je parle pas des grands historiens, hein, j'adore, il y a toujours des immenses historiens en France, des grands universitaires, ça c'est très bien, mais du côté grand public, c'était très tiré à la fin des années 2000, du côté Zemmour, Max Gallo, etc. C'est-à-dire qu'on revenait à une histoire nationaliste que personnellement je n'aime pas du tout parce qu'elle me paraît très dangereuse. Je pense que cette manière de raconter l'histoire est mauvaise pour la France. Donc je me suis dit, allez, essayons de, voilà, oublions toute modestie, essayons de faire des livres d'histoire pour essayer de donner en grand public une autre appréhension de l'histoire, une appréhension qui soit moins nationaliste, plus ouverte, en essayant toujours de regarder comment l'autre voit les choses et en essayant d'adapter l'histoire de France à notre période aujourd'hui. Ça paraît absurde que je dise ça. La plupart des gens qui ne connaissent pas l'histoire pensent que l'histoire, c'est un bloc qui est fixe. Pensent que, eh bien non, l'histoire, c'est l'histoire. Toute histoire est racontée différemment selon l'époque qui la raconte. On racontait pas l'histoire en 1880 comme on l'a racontée sous Louis XV. Hein, sous Louis XV, c'était que des histoires de princes et de rois et de généalogie. En 1880, c'est le célèbre roman national dont tout le monde parle, Jeanne d'Arc, etc., et les grands rois et les mauvais rois et la Révolution française. Eh bien, aujourd'hui, en France, il y a d'une part des tas de gens très marqués à droite en général qui disent « revenons à ce roman national ». Moi, je dis, si vous voulez qu'on enseigne l'histoire aux gens comme on l'enseignait en 1880, c'est une folie totale. 1880, cette histoire, elle servait à faire la guerre contre l'Allemagne, elle servait à conquérir conquérir l'empire colonial, disons. Eh bien, aujourd'hui, on n'a pas besoin de conquérir je pense que personne ne veut conquérir un empire, personne ne veut faire la guerre à l'Allemagne. Donc, faut faire une histoire adaptée à aujourd'hui. C'est ça que j'essaie de faire.
L'histoire de la France, on n'a pas dit histoire de France dans le titre. C'est aussi l'histoire de l'Europe, c'est l'histoire du monde. Il s'agit de se mettre à la place de l'autre, de changer de point de vue en fonction de l'époque. On va prendre un exemple à Dunkerque. Vous avez consacré un article récemment au film qui est sorti cet été sur Dunkerque 1940, le réembarquement en catastrophe des troupes anglaises vers le Royaume-Uni quand la France est vaincue. Vous avez fait la comparaison avec le film de Verneuil, production Zanuck, des années 1960. Ça, c'est un exemple qui montre comment le point de vue change.
C'était parce qu'effectivement, peut-être que les plus anciens de nos auditeurs se souviennent de
mais
ça.
Il n'y a pas d'anciens chez les auditeurs de France Inter.
Les plus anciens, c'est un relatif, ce n'est pas un absolu, Jean. Mmh. Et donc, les plus anciens se souviennent, le grand film des années 60, c'était Week-end à Zuidcoast avec Belmondo. Et donc, je faisais cette comparaison entre les deux. Et effectivement, Week-end à Zuidcoast, donc, il raconte le même épisode, qui est le réembarquement des troupes à Dunkerque. Alors, évidemment, Belmondo, c'est un soldat français. Mais ce qui était très marquant à l'époque, c'est Belmondo fait du Belmondo, c'est-à-dire l'espèce de type très élégant. Il y a des bombes qui tombent partout et Belmondo, il s'épousette l'épaule en disant, là, elle est pas passée loin, celle-là.
Le panache français.
Voilà, c'est exactement. C'est dans les années 60. C'est la France qui est toujours dans l'idée, essayons d'oublier cette humiliation de 40, donc on essaie de la refaire sur le panache. C'est un petit peu l'équivalent de ce qu'était Cyrano en 1910, si vous voulez. Et le film Dunkerque, hein, comme on appelle désormais ma ville natale, eh bien Dunkerque, lui, c'est autre chose. C'est un point de vue anglais et c'est un film que bon, j'ai beaucoup aimé, le film Dunkerque, là, parce qu'il est très majestueusement réalisé, mais enfin, il est dans un point de vue clairement, qui est un point de vue de l'Angleterre post-Brexit, c'est-à-dire on quitte l'Europe, on veut plus de vous et on va se débrouiller tout seul parce que tout seul on est le plus fort, la preuve on s'est battu contre Hitler, c'est le vieil isolationnisme britannique.
Se mettre à la place de l'autre, changer sans cesse de point de vue, Vous n'avez jamais été professeur d'histoire, François Reynard, c'est dommage.
J'aurais bien aimé, mais non, ouais. Je n'ai jamais été professeur.
On va essayer de voir comment vous vous débrouilleriez aujourd'hui. Voici un exemple qui est tiré d'une excellente émission de France Culture qui s'appelle La Fabrique de l'Histoire. Emmanuel Laurentin a eu l'idée d'envoyer ses reporters observer ce qui se passe dans les classes. Et là, nous sommes dans une classe qui essaye de reconstituer le débat qui a précédé la conquête de Madagascar sous la Troisième République. L'idée, c'est que les élèves prennent un autre point de vue que le leur, celui de l'a posteriori, tentent de se mettre dans la peau des protagonistes de l'époque.
Bah, déjà, on va vous demander de vous présenter.
Alors, moi, je suis Charles-Émile Frappel. Je suis né dans l'Alsace en 1827. Et à l'âge de 16 ans, j'ai décidé d'étudier au séminaire de Strasbourg, afin de devenir prêtre catholique.
Bah, moi, je suis la reine Binao, reine des Sakalaves du nord-ouest du Madagascar.
Je suis contre le fait que les Français colonisent mon royaume, en fait. J'aimerais effectivement conserver mon royaume.
Est-ce que vous feriez la guerre à la France, en fait ?
Bah, s'il le faut, oui. Je mènerai ma guerre contre la France.
En parlant de guerre, qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Charles-Émile Frappel ?
Oui, je suis pour. Comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je suis pour. Non, en fait, je suis pas pour la guerre, mais je suis pour la colonisation de Madagascar. Comme ça, ça me permettrait de prêcher la bonne parole là-bas et, en gros, de convertir un maximum de personnes. Ça empêcherait l'expansion de la religion protestante. Et en plus de ça, s'il n'y a pas de colonisation, les chrétiens de Madagascar risquent d'être réduits à l'esclavage, alors que ça fait 40 ans que l'esclavage a été aboli en France. Et en plus, je sais que les ancêtres de la reine actuelle ont persécuté les chrétiens et les catholiques en particulier là-bas. Et c'est inacceptable.
Je suis Georges Clémenceau, député à la Chambre de Paris. Les ressources nécessaires à la colonisation d'une région pourraient être utilisées en France. Elles pourraient permettre de combattre la pauvreté en France et de ramener le pays à une stabilité, sans pour autant avoir besoin d'aller chercher les ressources à l'extérieur. De plus, les habitants de ces pays ne nous sont pas inférieurs, ce sont des êtres humains, comme nous, et nous ne pouvons pas nous permettre de rentrer là-bas et de les traiter comme des êtres inférieurs, sous prétexte qu'ils n'ont pas notre civilisation.
Formidable comme exercice, un petit peu celui qui se produit ici au Festival Historia, où les gens se mettent dans le costume d'un légionnaire romain, d'un soldat français, mais aussi bien d'un soldat allemand. Demander à un élève de prendre la soutane de Monseigneur Frappel. À l'époque, il y avait des soutanes à l'Assemblée nationale, qui étaient à la fois évêques et députés, et de défendre son point de vue, se mettre à la place de l'autre.
Bon, en tout cas, oui, je trouve ce qu'on vient d'entendre est excellent. Hein. Je trouve ça formidable qu'un prof fasse ça, parce que effectivement, très souvent, l'histoire, elle est idéologisée hein, sur l'histoire coloniale. Dans les années 1880, précisément, jusqu'à la fin de l'Empire, on racontait c'était la France glorieuse qui allait apporter la civilisation à des pauvres gens sous-civilisés, etc. Puis ensuite, il y a eu le discours qui est c'est affreux, c'est horrible, comment on a pu faire ça, etc. Hein, le célèbre discours de repentance. Et là, je trouve qu'il donne vraiment, il y a vraiment un regard historique, c'est-à-dire dire j'essaie de me replacer dans l'époque et j'essaie de savoir ce que tous les personnages ont pensé de ça et quel était leur moteur, quelle était leur force mentale. C'est très très bien. Alors si je puis me permettre toute petite remarque, moi je suis pas du tout prof, j'écris des livres pour adultes, enfin des livres pour adultes, entendons-nous, hein.
Public averti.
Des livres pour un public averti, voilà. Ouais. J'espère que cette chose-là qui est formidable, c'est accompagné aussi quand même de bases chronologiques, d'expliquer ce que c'est que la colonisation, comment c'est fait la colonisation de l'Afrique et de Madagascar, etc. Parce qu'il y a toujours aussi ce grand discours-là en histoire.
Et puis,
est-ce qu'il faut faire histoire-récit ? Est-ce qu'il faut faire histoire-méthode et tout ça ?
Accompagné quand même d'un sentiment patriotique. Vous n'êtes pas anti-patriote, vous êtes anti-nationaliste. C'est pas la même chose.
Ah, tout à fait. Je suis anti-nationaliste au nom de la défense des intérêts de la France. C'est-à-dire que ce que j'essaie de raconter, ou quand j'ai fait une histoire du monde, hein, le dernier livre que j'ai fait, La grande histoire du monde.
En toute simplicité, oui.
Ouais, voilà. Qui y va sinon, hein ? Trouvez-en d'autres. Il n'y en a pas. Bon, alors je me suis dit, allons-y. Mais après, il faut faire les choses avec méthode et puis faire un chapitre après l'autre. Puis finalement, on arrive à gravir sa montagne au bout de 3 ans. Mais en tout cas, pourquoi j'ai fait cette chose-là ? Parce qu'on est dans un monde dans lequel constamment, tout le monde voit bien que la Chine devient de plus en plus puissante. Tout le monde voit bien qu'elle va rafler le 21e siècle. Tout le monde voit bien que l'Inde, ils vont envoyer bientôt un satellite dans l'espace. Et la plupart des gens, la plupart d'entre nous, on n'a pas d'accès à l'histoire de ces pays-là. Je dis, c'est une folie totale. L'année dernière, il y a François Fillon qui faisait toute sa campagne sur le thème il faut réenseigner l'histoire de France. Oui, on va aller voir les Chinois en disant nous on a Vergès historique, c'est nous on a la bataille de Rocroi. Alors calmez-vous les Chinois. Non, je dis non. Face à la menace chinoise, à la menace chinoise, c'est-à-dire que le fait que ce pays veut rafler le monde entier, eh ben il faut qu'on apprenne son histoire. Hein, c'est évident. Alors, j'espère qu'on ça va pas finir par une guerre mondiale, mais en tout cas au moins qu'on soit préparé à voir ça, parce que tous les, par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Hein, si je dis traité inégaux et que je demande aux gens dans cette salle de lever la main pour dire ce que c'est, je pense qu'il y a pas beaucoup de monde qui va lever la main. Tous les Chinois connaissent les traités inégaux, ils connaissent toutes les dates des traités inégaux. Les traités inégaux, c'est au 19e siècle ce que les Anglais et les Français, puis ensuite les Allemands, les Italiens, etc., ont imposé à la Chine, hein, pour lui imposer les traités commerciaux, pour l'obliger à commercer avec le reste du monde. C'était les traités inégaux parce qu'ils étaient très inégaux, comme leur nom l'indique. Eh bien, tous les Chinois ont ça en tête, et quand les Chinois font aujourd'hui une politique commerciale, tous les Chinois ont en tête l'idée, quelque part derrière, l'idée, on va se venger de ce qu'ils nous ont fait. Et il y a aucune raison qu'ils ne se vengent pas, d'ailleurs. Mais nous, il faut qu'on connaisse ça, et il faut qu'on sache, et il faut qu'on se prépare à ça. On se prépare à avoir une immense puissance qui a bien envie de faire qu'une bouchée de la vieille Europe.
Pierre Nora dit, ce qui est plus intéressant, c'est le passé de la France, c'est pas son avenir.
Mais il faut connaître le passé pour défendre l'avenir. Et ce qui est toujours important, ce qui est toujours le plus passionnant, c'est ni l'avenir ni le passé, c'est le présent. C'est comment le présent construit l'avenir. Moi, je passe mon temps à étudier l'histoire, non pas pour, encore que c'est bien agréable, hein, vous savez, j'ai fait l'histoire du monde, j'ai dit que c'était un travail de 3 ans, mais c'est un travail de 3 ans dans lequel il y a des tas de moments de bonheur, quand même. Moi, j'adore les guerres mongoles, c'est merveilleux. Les Mongols qui envahissent toute l'Asie au 13e siècle, c'est extraordinaire, surtout que c'est pas ma tête à moi qui va tomber sous le je sais pas comment ça s'appelait, le sabre de Gengis Khan, hein, bon, mais donc il y a de l'agrément à l'histoire pour ça, parce que c'est un truc de fauteuil, on regarde les choses de son fauteuil, mais aussi ça sert à préparer, à comprendre le présent et à préparer l'avenir, c'est évident, sinon ça n'a pas de sens.
On va mettre à la torture une auditrice, là je la vois au 3e rang, je crois que c'est elle qui s'occupe de la fabrication de figures d'empire. Je vous pose une question, pas sur les traités inégaux, je vous rassure. Alexandre Dumas, pour vous, madame. Il faudrait que votre micro fonctionne, évidemment, ce n'est pas le cas. Alors, on va en prendre un autre.
Donc, Alexandre Dumas, ben, c'est des romans, un petit peu. Hein. Donc, pour moi, ça évoque que ça.
Que ça?
Oui.
Et d'un point de vue physique, vous le voyez comment? Blanc, éclatant, blanc, éclatant, blond.
Non, il n'était pas un peu métis, non?
Ben voilà, il était un peu métis. C'était là que nous voulions venir, parce que lui qui a tant étant fait pour l'histoire de la France, c'était un homme au sang mêlé, ce que le président de la République de 2002 avait mis en avant.
Voilà, le cercueil va maintenant remonter vers le Panthéon, au son des 3 trombones qui jouent Étoile 1 et 2, une œuvre composée en 1847 par Anton Bruckner. L'hommage de la République commence. La République aujourd'hui ne se contente pas de rendre les honneurs au génie d'Alexandre Dumas. Elle répare une injustice. Cette injustice qui a marqué Dumas dès l'enfance, comme elle marquait déjà au fer la peau de ses ancêtres esclaves. Fils de mulâtre, sans mêler de bleu et de noir, Alexandre Dumas doit alors affronter les regards d'une société française qui, pour ne plus être une société d'ancien régime, demeure encore une société de caste.
François Reinhardt.
Il parlait bien Chirac. Hein. Non, mais bien sûr. Alors là, je me souviens très bien qu'à ce moment-là, le côté un noir, même s'il n'était que moitié ou même quart. car, comme on disait à l'époque, noirs entrer au Panthéon, c'est évidemment très important, et c'est très important pour rappeler que l'histoire de France, elle concerne tous les Français, que parmi tous ces Français, il y en a qui sont blancs, il y en a d'autres qui sont noirs, il y en a qui sont juifs, il y en a qui sont musulmans, il y en a qui sont catholiques, etc. Il faut, je pense que l'histoire, elle doit forcément s'adresser à la société et être inclusive. Il y a eu le même mécanisme qu'on a oublié parce qu'il est un peu plus lointain sur les femmes. Dans le fameux roman national du 19e siècle, les grandes femmes de l'histoire de France, celles qu'on a toutes apprises à l'école, alors il y avait l'alibi Jeanne d'Arc, il y a qu'elle, d'accord? Et puis sinon, il y a Catherine de Médicis, c'est une méchante, il y a Madame de Pompadour, c'est une idiote, et il y a Marie-Antoinette, c'est une espèce de dépensière qui fait que des conneries. Donc c'était une image des femmes hyper négative. Michelet était très misogyne, l'homme du roman national, etc. Et ensuite, il y a des grands historiens et des grandes historiennes qui ont travaillé à partir des années 60-70 pour nous remettre beaucoup de femmes dans l'histoire, et je pense que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus d'historiennes, parce qu'elles s'y retrouvent, hein. Par exemple, l'exemple le plus célèbre, c'est, me semble-t-il, enfin le plus emblématique, c'est Olympe de Gouges. Moi, j'ai commencé à travailler l'histoire au moment du bicentenaire de la Révolution française. Quand on voyait passer Olympe de Gouges à ce moment-là, dans les années 80, c'était une hystérique. Elle avait été tuée par justement les grands, les Lavis, les Michelet, etc. C'était une espèce d'hystérique qui parlait. Aujourd'hui, on voit la femme qui a écrit la Déclaration des droits de la femme. Il y a des écoles, il y a des lycées, etc. Olympe de Gouges, tant mieux pour toutes les petites filles qui vont à l'école de se dire, ben voilà, cette grande femme, elle est formidable, tout ça. Et qu'on fasse la même chose avec les Noirs, qu'on fasse la même chose avec les Juifs, les protestants, les musulmans, etc. Tant mieux.
Vous avez employé le mot noir. Vous savez bien qu'Alexandre Dumas, avait des nègres. Est-ce qu'on a encore le droit d'utiliser le mot nègre? Je voudrais vous faire intervenir, vous, l'enfant de Dunkerque, sur une polémique qui a été lancée par le CRAN. Vous savez, le CRAN, c'est
le
conseil supposé représentatif des Noirs de France, qui est encore moins représentatif, sans doute, des Noirs de France que le CRIF ne l'est des Juifs de France.
C'est un regard biaisé, là.
Le CRAN, en question, qu'on cite de nouveau, dit, mais attention, là, au carnaval de Dunkerque, une tradition prétend que les braves gens, ignorants de l'histoire, à Dunkerque, participe à une nuit des Noirs.
On dit qu'ici, on dit qu'ici, la vie est rude, la vie est rude. Alors on a nos habitudes. Je ne fais pas d'île. La météo, Léo Fourneau. Si tu trouves pis, ailleurs c'est qu'est devenu.
À nous reconnaît,
à nos manies. Pour dire bonjour, c'est qu'est-ce à dire.
À nous stocker.
Pour dire au revoir. Si c'est un Anglais, l'aura bien le bonjour.
Bonne chômage.
Qu'est-ce que c'est bien, vivre dans la caisse, pays dans notre.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec François Reinhardt, enfant de Dunkerque à Strasbourg, en direct depuis le premier festival Historia. Oui, alors revenons sur cette polémique. Le blackface, c'est se grimer en noir. C'est un acte raciste. Il a partie liée avec le crime contre l'humanité. Vous saviez ça quand vous étiez petit et que vous participiez au festival de Dunkerque, au carnaval de Dunkerque?
Je vais faire comme Albert Camus interrogé sur l'Algérie, comme je suis de Dunkerque, entre la justice et ma mère. Ouais. Non, en tout cas, je pense que Louis-Georges Tin, qui par ailleurs est un homme très intelligent et qui ne dit pas que des bêtises, contrairement à ce que vous sembliez que suggérer tout à l'heure.
Je n'ai pas parlé de bêtises, j'ai parlé d'accord. De lobby. Alors, c'est le président du CRAN. Est-ce qu'on a suffisamment cité le CRAN?
C'est un homme qui est un homme dont l'idée, c'est de dire justement, les Noirs ont une place en France et doivent rentrer aussi dans l'histoire. Ça, c'est quelque chose qui me parle et qui m'intéresse. Là, je pense qu'il se trompe de cible sur le carnaval de Dunkerque. Là, le carnaval de Dunkerque, c'est un carnaval dans lequel tout le monde se moque de tout le monde tout le temps. Mais c'est-à-dire qu'il y a les Noirs là, mais il y a les belles-mères, il y a les commissaires de police, il y a les chèques arabes, il y a tous les personnages de fantasy. Il y a les Mexicains qu'à sombrero. Les Mexicains qu'à sombrero, ils vont pas attaquer en disant c'est scandaleux, vous moquez de nous, etc. Là, quand ils ramènent ça à ce qu'on appelle le blackface, alors le blackface, lui, dit c'est français, etc. C'est surtout connu par les États-Unis. Aux États-Unis, comme les Noirs pouvaient pas jouer dans les théâtres, à la fin du 19e siècle, on se moquait des Noirs dans les théâtres en se mettant du cirage, hein, et voilà. Et donc là, c'était quelque chose qui était volontairement vraiment offensant. Là, au carnaval de Dunkerque, je pense que aucun homme qui se grime, il se grime pas en noir, il se grime en zoulou. Enfin, en zoulou, c'est-à-dire en guerrier de fantaisie.
C'était un Zulu's Band.
Voilà, c'est exactement d'ailleurs. De la même manière, encore une fois, que celui qui se grime en belle-mère, il n'a aucune envie d'offenser sa belle-mère. Donc là, je pense que c'est franchement une mauvaise polémique.
Faire une place à l'autre, c'est très bien, mais enlever l'autre de sa place, faut déboulonner, comme le propose, enfin, je vais pas citer une troisième fois le nom du cran, faut déboulonner la statue de Colbert. Vous-même, il vous arrive dans nos ancêtres les Gaulois de traiter tel ou tel ministre de Louis XIV de criminel en dentelle. Mais le principe numéro un de l'histoire, c'est de ne pas juger.
Ah ben bien sûr que l'histoire juge tout le temps. Toute l'histoire, ben l'histoire n'est que jugement. Elle passe son temps à regarder et à
oui,
dire.
Oui, mais la thérapie pour l'historien, c'est d'apprendre à ne pas juger.
Bon, non, je crois pas moi. Ça, c'est en tout cas c'est le travail que je fais moi. Non, le passeur d'histoire, il faut qu'il aide les gens et dire, bah aujourd'hui on regarde ça autrement, etc. Tous les grands historiens ont toujours fait ça. Vous citiez Lucien Febvre, l'immense homme de l'école des Annales. Lui, il détestait un historien que j'adore personnellement, qui est Charles Seignobos. Charles Seignobos, c'était le grand historien des années 1910-1920, Douai de la Sorbonne, etc. Eh bien, Charles Seignobos, quelque chose que j'admire chez cet homme-là, c'est sa pédagogie, sa clarté. Tous les livres d'histoire, vous pouvez acheter, si vous allez aux puces, etc., acheter les manuels de lycée de Seignobos des années 1910, eh bien, ils parlent et ils prennent le lecteur par la main, par la morale. Et ce que j'aime chez Seignobos, et je reviens à votre propos sur le Louis XIV, c'est que lui, quand il parle de Louis XIV, il dit, il y a les grands côtés de Louis XIV, le roi soleil, etc., et il y a aussi les mauvais côtés de Louis XIV, la dévastation du Palatinat, on n'est pas loin de Strasbourg, et il raconte que dans le Palatinat, les troupes de l'Empire les troupes du roi soleil, ont dévasté, ça veut dire on a tué tout le monde, on a tout brûlé, etc. À Heidelberg, on voit encore les ruines du château qui a été brûlé par les troupes de Louis XIV. Et Seignobos dit, c'était une horreur qui a mérité le fait que les habitants du Palatinat, pendant des décennies après, ont donné à leurs chiens le nom des maréchaux de Louis XIV. C'était un grand historien français, un grand patriote français, ce que vous voulez, mais il disait cette chose-là, qui est une vérité, bon, bien sûr, qu'il faut juger.
Admettons que ce soit le rôle de l'historien, j'en suis pas autant convaincu que vous, parce que c'est le rôle des politiques. On a exclu du livre des commémorations nationales, commémoration, ça veut pas dire célébration, récemment, Maurras, leader de l'Action française, bon. Admettons, je vous donne toujours du grain à moudre. Et voilà que l'ancien secrétaire de Maurras dans sa jeunesse, qui était un homme resté de droite extrême, exquis, qui s'appelait Michel Déon, académicien, commandeur de la Légion d'honneur, auteur des Poneys sauvages, du Taximo, etc., demande, via la voix de sa famille, bon, je voudrais un petit coin au cimetière Montparnasse pour mes urnes, mes cendres dans une urne, pas une rue, hein. Et Madame Hidalgo aurait tweeté, voici mon verdict. Au nom de quoi la maire de Paris pose-t-elle des verdicts sur l'histoire? Ce sera non.
Alors, je pense que vous mettez beaucoup de choses ensemble qui n'ont pas à être mises ensemble, à mon avis.
Ah bon?
L'histoire Déon.
Maurras et Déon.
L'histoire Déon. Déon
c'est
Maurras, mais, non. Mais
l'affaire la Déon, polémique, ça suit l'affaire Maurras.
Non. La polémique Déon, c'est, il avait demandé dans ses dernières volontés à être enterré à Paris, et là, il se pose un problème, c'est que la mairie de Paris se retranche derrière la loi des cimetières qui dit qu'on peut être on peut être enterré à Paris si on a vécu à Paris, vivait en Irlande.
Vous savez très bien qu'on dit distribue les tombes à Paris selon les mêmes privilèges que les HLM. Fait partie des privilèges de la mairie.
Bon, en tout cas, la mairie ça, dit on applique la loi. Ça, c'est une chose. Et par ailleurs, Maurras, c'est autre chose. Moi, je pense effectivement, il fallait non bien sûr le célébrer, mais le commémorer, parce que le nationalisme de Maurras, un nationalisme ethnique, celui qui dit la France doit être réservée aux vrais Français et pas à ce qu'il appelait l'anti-France, les protestants, les juifs, les métèques, les francs-maçons. Lui, c'est ce que disait Maurras. Eh bien, je pense qu'il faut étudier ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui continue à avoir une ligne maurrassienne et qu'il faut la combattre.
Voilà, l'histoire est un combat, mais c'est aussi un débat. Merci à vous, François Reinhardt. Historama, c'est chez Talendier. Le festival Historia continue avec Charline un peu plus tard dans l'après-midi dans cette salle de l'auditorium Schweitzer. On va vous applaudir. Il y a Adrien Gaza, Laurent César, Gilles Manet, Benjamin Thuot, Jean-Christophe Perrin. Et aussi Iline Canet-Dulesco, que vous avez connue dans l'émission Le Fou du Roi, et qui a préparé cette émission réalisée par Audrey Ripouille.